vue d'ensemble de l'actualité.
And I would consider it, let's see, I certainly hope that all members of the committee have more confidence in my integrity than to think that I would allow myself to be used as a pawn to decide this election for the American people.
Réville PM.
Alors, la candidate au poste de juge à la Cour suprême des États-Unis, Mme Barrett, qui dit « Je ne serai pas le pion de Donald Trump si jamais vous me nommez à la Cour suprême » puis qu'il y avait contestation des résultats de l'élection. Prenez pas, ne vous méprenez pas sur mon indépendance. Je ne serai pas le petit chien de poche de Trump là, pour lui donner éventuellement la victoire là, dans une décision de la Cour. Alors, pour parler de cela et de politique américaine, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'élection, ça s'en vient. On va évidemment retrouver Luc Lavoie, qu'on retrouve à ce moment-ci de la journée à tous les jours. Bonjour Luc.
Salut Bernard.
Et évidemment Valérie Beaudoin, notre spécialiste de la politique américaine, qui est avec nous également. Bonjour Valérie.
Bonjour à vous deux.
Bon, Valérie, parle-nous d'abord de la juge Barrett, là, les audiences. Est-ce que tu penses qu'elle va être confirmée d'abord?
Je crois que oui, à moins vraiment d'un revirement de situation, parce que pour l'instant, les démocrates ont toujours seulement deux votes de leur côté, là, en fait, du côté républicain, qui ont décidé de voter avec eux. Alors, pour l'instant, je vois pas de squelette dans le placard ou de nouvelles révélations qui pourraient faire changer d'idée de nombreux sénateurs républicains, parce que pour l'instant, ça se déroule quand même bien. Les audiences, là, pour les gens, je sais pas si les gens y ont regardé ça, c'est assez ardu à regarder, là, juste pour vous dire, hier, elle a été questionnée pendant 11 heures de temps. Donc, je ne crois pas que la majorité des Américains ont regardé du jour 1 jusqu'au dernier jour les audiences de la juge Barrett, mais vraiment, c'est pour la questionner sur ses croyances un peu à elle, sur ce qu'elle a jugé dans le passé et ce qu'elle va faire pour remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg, là, qui est décédée il y a quelques semaines.
Ses convictions religieuses, Luc, c'est pas un enjeu? C'est pas suffisant pour bloquer sa nomination?
Non, c'est pas suffisant pour bloquer sa nomination, certainement pas. Et c'est les démocrates qui... Ils ont compris, si tu veux mon idée, ils ont compris les démocrates qui sont pas capables d'empêcher cette nomination-là. Jusqu'à maintenant, comme le disait Valérie, elle est plutôt bonne, hein? Honnêtement.
Oui.
Hein? Je sais qu'on aimerait ça dire elle est mauvaise, puis elle répond pas, puis elle est vite, puis elle contourne. Honnêtement, quand tu l'écoutes pendant une heure et demie de temps, comme j'ai eu le courage de le faire, elle est pas mal. Elle est pas trop
mal
stupide, loin de là.
Ben non,
elle est très intelligente.
Il n'y a jamais personne qui a pensé qu'elle n'était pas intelligente. La question, c'est qu'on pense que c'est ses convictions religieuses qui vont dicter ses jugements. C'est ça qu'on craint.
Ben oui, c'est ça qu'on craint, mais on pourrait le dire de plusieurs autres. Là. Écoute, je ne veux pas prendre sa défense. Moi, je pense que c'est une très mauvaise nomination, mais c'est dans un pays, c'est une société qui est différente de la nôtre, où la religion joue un grand rôle, je ne peux pas le nier.
Valérie, tu l'as regardé combien d'heures, toi, là? Le Luc, c'est une heure et demie, toi, combien?
Ben là, depuis ce matin, j'ai pas arrêté, là. Donc, ça a commencé autour de 9 heures, là. Je sais pas exactement, là. Je l'ai écouté à partir d'à peu près 10 heures jusqu'à ce qu'on rentre en onde ensemble. Okay. Donc, aujourd'hui, hier, je l'ai écouté un peu aussi. Et sur la question de la religion, c'est justement dangereux de l'attaquer là-dessus. Et c'est pour ça que les démocrates ont été hyper prudents. Parce qu'imaginez s'ils l'attaquent sur le fait qu'elle est trop croyante, qu'elle met trop de place dans sa vie pour la religion et tout ça. Ben là, c'est le vote catholique qui pourrait dire, ben écoutez, moi je pensais voter pour Joe Biden, mais là vous l'attaquez en raison de sa religion, ça n'a pas de bon sens, donc c'est pas ça qu'on va faire. Vraiment, on essaie de l'attaquer sur des questions qui touchent les électeurs, comme Obamacare, comme l'assurance santé, parce qu'on le sait qu'elle a déjà écrit qu'elle n'était pas d'accord avec Obamacare, qu'il y avait des notions qui étaient inconstitutionnelles. Alors, on va l'attaquer sur ces choses-là et on va... Vraiment, là, au niveau de la religion, ça va être de façon détournée en l'attaquant sur des questions comme l'avortement. Mais je suis d'accord avec Luc, elle a très bien performé jusqu'à maintenant. Et un des moments qui m'a impressionnée, c'est qu'elle a montré une feuille vide devant elle. Elle n'a aucune note. Elle n'a aucune note. Elle n'en prend pas non plus pendant l'audience. C'est vraiment toutes ses réponses sont de mémoire. Et ça, je pense que ça l'a impressionné des deux côtés.
Et il faut faire attention, Bernard, dans ces affaires-là, quand tout devient polarisé. Elle appartient pas à une secte capotée, là. Et dans la religion catholique. Je dis pas qu'il y a pas de défaut à la religion catholique, mais tu sais, on parle
non,
pas
non,
ici.
Non, mais moi, c'est pas moi. La religion catholique, comme toutes les autres religions, ils ont le droit d'exister. J'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est que je veux pas qu'on se retrouve. Puis là, tu vas me dire, Bernard, c'est pas de même au Canada, c'est différent au Canada. D'accord. Mais ce qu'on a entendu de ce juge-là, là, depuis sa nomination, depuis sa mise en candidature, c'est qu'elle est effectivement extrêmement religieuse.
Conservatrice.
Et qu'elle pourrait se servir, dans le fond, de ses convictions pour, par exemple, limiter le droit des femmes à l'avortement. Mais là, je peux pas avoir autre chose qu'un malaise face à ça, comprenez-vous?
Oui, j'en ai un aussi, puis, mais c'est un long shot dans le cas de l'avortement. Parce que ça arrivera pas demain matin, là. Roe v. Wade ne se retrouvera pas devant la Cour suprême pour encore des années.
Bon.
Là où elle est dangereuse pour ceux qui croient à ça, là, puis il y en a plusieurs, c'est Obamacare. La dernière test va se retrouver devant la Cour suprême, puis elle va être jugée.
Obamacare, en résumé, en 10 secondes, Luc, c'est quoi Obamacare?
C'est l'assurance maladie présenté et adopté sous le gouvernement Obama, c'est pas tout à fait comme nous. En fait, c'est pas du tout comme nous, mais ça couvre des millions d'Américains.
Qu'il ne serait pas autrement. Parce qu'il n'y avait pas moyen de s'acheter une assurance privée.
Voilà.
Bon, OK. Val, vas-y donc sur le fait que et Biden et Trump vont participer à des événements d'envergure là, dans les prochaines heures.
Oui, ben écoutez, ils sont sur la route vraiment de la campagne, mais ce qui est important, c'est que jeudi, on va avoir un town hall, mais pas juste on va en avoir deux finalement. Juste pour rappeler, on en a parlé aussi à ton émission, on a annulé le débat qui devait avoir lieu, le débat présidentiel de jeudi, parce que Trump refusait ça de faire tout ça de façon virtuelle. Finalement, Biden s'était retourné en disant, ben moi, écoutez, je vais en faire un, je vais le faire justement en Pennsylvanie.
Ça veut-tu répondre... dire qu'il va prendre les questions, ils vont prendre les questions de l'assistance, parce
exactement.
Que town hall, ouais. Par définition, c'est
oui.
Ça, là. Oui,
okay. Oui, tu as bien raison de le préciser. Et là, le président qui a dit, ben moi aussi, je vais en faire un temps normal, mais sur une autre chaîne. Alors là, vraiment, il va être sur la chaîne NBC, en direct de la Floride. Donc, imaginez, à la même heure, dans deux postes de télévision différents aux États-Unis, chacun va tenir son temps normal au lieu d'avoir un débat.
Et vous pouvez compter sur Trump s'il gagne les codes d'écoute, ben il va s'en vanter passablement.
J'allais dire, l'audimat,
mais moi, Bernard,
comme on dit,
je voudrais
là.
Vous amener sur un autre thème.
Oui, vas-y.
L'expression consacrée, c'est « les rats sautent du bateau qui coule », c'est en train de se passer là, chez les Républicains, et ça, d'après moi, c'est un signe avant-coureur d'une catastrophe pour eux. Là. Quand tu penses au sénateur Ted Cruz du Texas, qui est un des plus influents, lui, il a dit « nous pourrions perdre la Maison-Blanche et les deux chambres ». T'as Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat. Il veut plus mettre les pieds à Maison-Blanche parce qu'il a peur d'attraper la COVID.
Mais il y en a qui pensent que le Texas pourrait passer aux mains des démocrates, ce dont je doute, je vous le dis d'emblée, là.
Moi aussi, j'en doute, mais ça pourrait.
Ça reste possible.
Et vous avez le cas de Lindsey Graham, qui est quasiment une fixture dans la politique américaine, en Caroline. Il est en train de se faire battre, lui aussi.
Mais lui, honnêtement, là, c'est un méchant couillon.
Ben, je pense que oui.
Attends, là, tu te rappelles les déclarations qu'il avait faites à propos de la nomination du juge ou de la juge, je me souviens plus, là, puis il avait dit, rappelez-vous de mes déclarations, puis mettez-moi les dents en face si jamais on se retrouve dans une situation similaire. Ouais. Et là, dans ce cas-ci, dans le cas de la juge Barrett, il est d'accord pour sa confirmation, pour sa ratification.
Mais maintenant, c'est vrai de presque tous les autres républicains.
Oui.
Non, mais
Ted Cruz avait dit la même chose. Il était allé assez loin.
Il avait dit, souvenez-vous de ma déclaration, je suis contre la ratification de tel juge avant les élections. Rappelez-vous, si jamais je dis le contraire un jour, mettez-moi ça d'en face. Puis là, il dit le contraire. Puis là, il y en a qui y ont mis d'en face. Ça l'a pas aidé.
Le sénateur Tillis, qui est un de ceux qui a attrapé la COVID dans la Maison-Blanche lors de la réception. Le super, comment on appelle ça en français? Super spreader,
Le super propagateur.
Alors, ce qu'on voit ici, là, j'ai rarement vu ça. Moi, je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais journaliste en 1984, quand John Turner était chef. Puis à un moment donné, dans les deux dernières semaines de cette longue campagne de 57 jours, t'as vu comme des gens qui ont commencé à sortir, Francis Fox, de nombreux autres qui disaient, ben, c'était mal organisé, ben, c'était de la faute à un tel. Quand t'arrives là, c'est parce que ça va mal. Ça va très mal, je crois. Bon. À l'heure actuelle, selon la moyenne RCP, il y a presque 10 points d'avance Biden qui se maintient. C'est une moyenne, mais il y a des sondages qui le placent à 14-15 au-dessus.
Bon, puis ça m'amène à l'autre sujet que tu voulais aborder, Valérie Beaudoin. Il y a des observateurs de la politique américaine qui trouvent que Biden s'en sort à très bon compte dans cette campagne.
Ouais, et on va donner raison aux camps de Trump dans ce côté-là parce que ils disent, écoutez, vous questionnez pas Biden, il est pas challengé comme moi je le suis. Bon, oui, c'est vrai que Trump c'est le président qui est controversé, mais ça vous démontre à quel point cette élection-là c'est un référendum sur la présidence.
Exactement.
Trump et à quel point il domine les médias américains, ça a aucun sens là. Écoutez, pour des petits chiffres, c'est Axios, un site que j'aime beaucoup qui a fait ça. Il a dit que Biden a répondu à 365 questions par des journalistes, 753 pour Trump. Donc, on s'entend qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Biden a été 3 mois sans répondre aux questions des journalistes sur le terrain. À sa défense, il avait dit, ben écoutez, moi, j'ai été couvert beaucoup pendant les primaires démocrates. Donc là, c'est normal que je sois un petit peu plus dans l'ombre, que je réponde pas nécessairement aux questions des journalistes qui sont de beat, qu'on appelle, là, qui sont toujours là à suivre la campagne électorale. Alors, il se défend de cette façon-là, mais c'est pour démontrer, et on le dit souvent à la blague, il peut rester dans son sous-sol, il peut rester en retrait. Il serait quand même, je crois, d'avance dans les sondages, à moins de faire une gaffe majeure, parce que les gens, il y a une frange de la population qui déteste le président Trump et qui veulent absolument le faire sortir de la Maison-Blanche.
Donc, toute une tranche aussi de la population qui va voter pour Biden par défaut.
Exact.
Pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils veulent se débarrasser de Trump.
Et j'ai vu cette statistique, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, c'est Rémi Francoeur, qui est un franco-américain là, qui a habité longtemps au New Hampshire, qui vient d'une famille de descendance canadienne-française et qui a travaillé en politique américaine pour les démocrates. Il a tweeté ceci, il y a 320 000 Américains de moins de 30 ans qui ont déjà exercé leur droit de vote en prévision de la prochaine élection. Il y en avait seulement 50 000 à pareille date en 2016. On est passé de 50 à plus de 300 000 jeunes. Ça vote en sacrifice, là.
Ah, ça vote, là. C'est incroyable à l'heure actuelle. C'est dur de faire des projections parce qu'on n'a jamais vu ce genre de chiffres.
Non.
Mais si ça se maintient, là, on va avoir un record de votation, de participation à une élection présidentielle.
On est rendu à 10,5 millions de personnes qui ont déjà voté. La semaine dernière, on s'en parlait à l'émission, c'était 6,6 millions. Donc, ça continue d'augmenter, là. On a eu du vote par anticipation en Géorgie. Juste vous dire, dans la journée de lundi seulement, 126 000 personnes qui avaient voté. Et au Texas, à midi, le premier jour du vote par anticipation, 50 000 personnes. Quand on sait que les démocrates votent beaucoup plus par anticipation et par la poste, par exemple, il y a vraiment un vote démocrate qui se met en branle, là, je crois, cette élection-ci.
Je voudrais ajouter une dernière chose.
Oui.
Je pense que les sondages indiquent très clairement qu'à l'heure actuelle, ce que Trump voulait éviter est en train de se produire, à savoir que cette campagne, l'enjeu numéro un, c'est devenu la pandémie. C'est
oui.
Ça qui fait peur aux gens. C'est ce qui explique que les gens de 65 ans et plus qui veulent plus voter pour Trump, c'est devenu une campagne où il y a un seul enjeu. Il y en a deux, se débarrasser de Trump puis la pandémie.
À surveiller, on compte sur vous. Luc Lavoie, on se reparle un peu plus tard.
Avec plaisir.
Et Valérie Beaudoin, merci pour tout. Et retourne à ces audiences fascinantes, hein, prenantes.
Je vais essayer de ne pas m'endormir. J'ai un bon café devant moi.
On se reparle. Salut, merci.
Bye.
OK, après la pause, on va parler avec Alain McKenna, qui vient de sortir un livre, ce qui va nous arriver en 2021, mais dans les faits, c'est pas ce qui va nous arriver en 2021, c'est ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Et là, il couvre toutes sortes de sujets qui sont franchement là fascinants. Je lis le livre sous les yeux. Tiens, c'est un robot qui va vous embaucher puis qui va vous mettre à la porte. Les vêtements qui ne t'appartiendront plus. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on va louer nos vêtements. On va imprimer beaucoup, beaucoup de choses. Ta casquette fera pousser tes cheveux. Tu vas pouvoir contrôler tes rêves. Écoutez, c'est franchement fascinant. Il est avec nous tout de suite après la pause.